Michel Butor.
J'ai essayé de trouver des moyens nouveaux pour montrer des choses dont on n'arrive pas encore à parler. Il y a toutes sortes de choses dans le monde où nous vivons dont nous avons vaguement entendu parler, mais dont nous ne tenons absolument pas compte.
Ça peut pas faire de mal.
Nous savons que la Terre est ronde, mais nous n'en tirons pas les conséquences. Et ainsi, dans notre connaissance de la réalité, il y a toutes sortes de régions obscures, des points aveugles, des faces cachées. La littérature peut essayer de faire parler de ce dont on n'arrive pas à parler.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Je suis né dans le chemin de fer. Non seulement je suis un Parisien, mais je suis aussi un cheminot. Mon père était dans l'administration des chemins de fer. Pendant toute ma jeunesse, c'était le seul moyen de transport raisonnable pour moi, pour ma famille. Les automobiles nous apparaissaient comme un luxe faramineux. Le chemin de fer est un exemple admirable de liaison précise entre le temps et l'espace. J'avais ici cet indicateur du chemin de fer qui me donnait cette liaison précise. C'est précieux d'un point de vue narratif. Bien sûr, il peut y avoir de la fantaisie. Au cours du voyage, le train en croise d'autres qui vont en sens inverse. Chaque escale peut être considérée comme un lieu de croisement, d'embranchement ou d'aiguillage, menant à des voyages antérieurs, dans un sens ou dans l'autre, ou postérieurs, en projet. L'existence de mon personnage, puisqu'il est représentant à Paris d'une maison de machine à écrire romaine, est rythmée par des allers-retours au cours desquels le train est le lieu par excellence du souvenir et du projet. Le train nous présente le paysage d'une façon particulière. La vision que nous en avons est entièrement latérale. À l'intérieur du wagon, les voyageurs voient défiler le paysage de chaque côté. Les fenêtres se présentent comme des écrans de cinéma. On glisse le long du paysage, alors que lorsque l'on conduit une automobile, on pénètre à l'intérieur. L'automobiliste regarde la route, tandis que le voyageur en chemin de fer contemple un panorama glissant qui va pouvoir servir de métaphore pour l'histoire. Le paysage de l'automobiliste est une métaphore du présent, de la façon dont nous nous enfonçons dans l'avenir avec le passé derrière nous, alors qu'en train, nous glissons le long du paysage ferroviaire et nous éprouvons par rapport à lui une liberté beaucoup plus grande. Jeu entre des voyages et des régions d'entre-voyages. Romancier, essayiste, amateur de peinture et de musique, mais aussi grand voyageur, enseignant en Égypte, aux États-Unis, puis en Suisse, Michel Butor s'est éteint l'été dernier, à la veille de son 90e anniversaire. Auteur d'une œuvre considérable, plus de 1500 titres, mêlant poésie et ouvrages d'art, il est surtout célèbre pour ses quatre uniques romans, écrits à l'âge de 30 ans. Passage de Milan, en 1954, qui a influencé Georges Perec, L'emploi du temps, en 1956, Degré, en 1960. Mais son chef-d'œuvre est incontestablement ce récit fascinant d'un trajet en train, La Modification, paru en 1957 aux éditions de Minuit, récompensé par le prix Renaudot la même année. Ce soir, saluons la mémoire de ce professeur de littérature, amoureux des auteurs classiques, Flaubert, Balzac, Rimbaud. Grand érudit, il parle de son talent avec une extrême modestie. Je cite « Si j'ai apporté quelque chose de nouveau, c'est que j'ai été entraîné par l'élan de nouveauté qui vient du fond des siècles. » Trop modeste, Michel Butor est l'inventeur du roman à la deuxième personne du pluriel. Ce « vous » qui interpelle le lecteur et ne le lâche plus.
Je crois que on peut voir les choses de la façon suivante. Dans ce livre, je m'efforce de faire jouer au lecteur le personnage. C'est d'ailleurs ce qui se passe toujours dans les romans.
Découvrons les premières pages de La Modification avec cette adresse directe au lecteur qui a bouleversé l'école littéraire. Dans le recueil Improvisation, Michel Butor relate cette anecdote. Je cite « Quand le livre est sorti, un critique a dit « À quoi cela sert-il de décrire un wagon de chemin de fer ?» Tout le monde a pris le chemin de fer et tout le monde sait bien comment est un wagon de chemin de fer. J'ai répondu « Mais aujourd'hui, les trains ne sont plus comme ils étaient à l'époque et par conséquent, rien ne serait compréhensible dans ce livre si la description n'avait été aussi minutieuse. » Vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre et de votre épaule droite, vous essayez en vain de pousser un peu plus le panneau coulissant. Vous vous introduisez par l'étroite ouverture en vous frottant contre ses bords, Puis, votre valise couverte de granuleux cuir sombre, couleur d'épaisse bouteille, votre valise assez petite, d'homme habitué au long voyage, vous l'arrachez par sa poignée collante, avec vos doigts qui se sont échauffés, si peu lourde qu'elle soit, de l'avoir portée jusqu'ici, vous la soulevez et vous sentez vos muscles se dessiner dans votre paume, votre poignet, votre bras, dans votre épaule aussi, dans toute la moitié du dos et dans vos vertèbres, depuis votre cou jusqu'aux reins. Non, ce n'est pas seulement l'heure à peine matinale qui est responsable de cette faiblesse inhabituelle. C'est déjà l'âge qui cherche à vous convaincre de sa domination sur votre corps. Et pourtant, vous venez seulement d'atteindre les 45 ans. Vos yeux sont mal ouverts, comme voilés de fumée légère. Vos tempes crispées à la peau tendue et comme raidies en plis minces. Vos cheveux qui se clairsèment et grisonnent, insensiblement pour autrui, mais non pour vous, pour Henriette et pour Cécile. Ni même pour les enfants désormais, sont un peu hérissés, et tout votre corps, à l'intérieur de vos habits qui le gênent, le serrent et lui pèsent, est comme baigné dans son réveil imparfait d'une eau agitée et gazeuse, pleine d'animalcules en suspension. Si vous êtes entré dans ce compartiment, c'est que le coin couloir face à la marche, à votre gauche, est libre. Cette place même que vous auriez fait demander par Marnal, comme à l'habitude, s'il avait été encore temps de retenir, mais non. Que vous auriez vous-même demandé par téléphone, car il ne fallait pas que quelqu'un sût chez Schiapelli que c'était vers Rome que vous vous échappiez pour ces quelques jours. De l'autre côté, assis sur l'autre banquette, un ecclésiastique d'une trentaine d'années, déjà un peu gras, tente de s'absorber dans la lecture de son bréviaire au-dessous d'un porte-document d'un noir un peu cendré, d'asphalte, dont bâille en partie la longue fermeture éclair comme la gueule aux dents très fines d'un serpent marin posé sur le filet où vous hissez péniblement, tel un dérisoire athlète de place publique soulevant l'énorme poids d'une seule main, puisque les doigts de votre autre main sont encore serrés sur le livre que vous venez d'acheter, vous hissez votre propre bagage, votre propre valise recouverte de cuir vert bouteille à gros grains, avec vos initiales frappées LD. Cadeau de votre famille à votre précédent anniversaire, qui était alors assez élégante, tout à fait convenable pour le directeur du bureau parisien des machines à écrire Schiapelli, et qui peut encore faire illusion malgré ses taches grasses. En face de vous, à travers la vitre, à travers une autre vitre, vous apercevez assez indistinctement, à l'intérieur d'un autre wagon de modèle plus ancien, aux bancs de bois jaune, aux filets de ficelle, dans la pénombre au-delà des reflets composés, un homme de la même taille que vous, dont vous ne sauriez ni préciser l'âge, ni décrire avec exactitude les vêtements, qui reproduit avec plus de lenteur encore les gestes fatigués que vous venez d'accomplir. Dehors, une voiture se fraye un chemin sinueux parmi la grise foule affairée, encombrée, qui s'émeut, qui s'embrouille dans ses conciliabules et ses adieux, tendant l'oreille aux brides de paroles déformées que déversent les haut-parleurs. Puis l'autre train s'ébranle dans le bruit, ses wagons verts passant les uns après les autres jusqu'au dernier, qui, se retirant comme la frange d'un rideau de théâtre, ouvre à vos yeux, comme une scène immensément allongée, un autre quai populeux avec une autre horloge et un autre train immobile qui, lui, ne partira vraisemblablement qu'une fois que le vôtre aura quitté la gare. Pour notre voyageur, c'est le début d'un long et pénible voyage de 24 heures. Directeur de la marque de machines à écrire Schiapelli à Paris, Léon Delmont se rend régulièrement à Rome pour des réunions mensuelles au siège du fabricant. Mais ce jour-là, il prend le train à un horaire inhabituel. Dans le plus grand secret, il décide de rejoindre sa jeune maîtresse, Cécile, et de lui faire la surprise de passer le week-end avec elle. Depuis 2 ans qu'ils se fréquentent, il a enfin pris la décision de quitter sa femme, Henriette. Mais rien n'est encore fait. Retrouvons-le installé à sa place, 1 heure après le départ. Des doutes commencent à l'assaillir. Vous n'avez pas encore réussi à vous éveiller complètement malgré ce nouveau café. Et pourtant, vous le vérifiez à votre montre, il est déjà bien plus de 9 heures. Si bien qu'un jour de semaine normale, vous seriez déjà à votre travail, avenue de l'Opéra, terreur des dactylos en retard. Et pourtant, hier soir, vous vous êtes couché assez tôt. Ce voyage devait être une libération, un rajeunissement, un grand nettoyage de votre corps et de votre tête. Ne devriez-vous pas en ressentir déjà les bienfaits et l'exaltation? Quelle est cette lassitude qui vous tient? Vous diriez presque ce malaise. Est-ce la fatigue accumulée depuis des mois et des années qui maintenant se venge, vous envahit, profitant de cette vacance que vous vous êtes accordée, comme profite la grande marée de la moindre fissure dans la digue pour submerger les terres que jusqu'alors ce rempart avait protégées. Mais n'est-ce pas justement pour parer à ce risque dont vous n'aviez que trop conscience que vous avez entrepris cette aventure? N'est-ce pas vers la guérison de toutes ces premières craquelures avant-coureuses du vieillissement que vous achemine ce train, vers Rome où vous attendent quel repos et quelle réparation? Alors pourquoi cette crispation de vos nerfs, cette inquiétude qui gêne la circulation de votre sang? Pourquoi n'êtes-vous pas déjà mieux délassé? Est-ce vraiment le simple changement de l'horaire qui provoque en vous ce bouleversement, ce dépaysement, cette appréhension? Le fait de partir à 8 heures du matin, non le soir, comme d'habitude? Seriez-vous déjà si routinier, si esclave? Ah, c'est alors que cette rupture était nécessaire et urgente, car attendre quelques semaines encore, c'était tout perdre. C'était le fade enfer qui se refermait, et jamais plus vous n'auriez retrouvé le courage. Enfin, la délivrance approche, et de merveilleuses années. Pour l'instant, retirez votre manteau, pliez-le, hissez-le sur votre valise. De la main droite, vous vous agrippez à la tringle, posture d'autant plus incommode qu'il vous faut la conserver malgré les oscillations perpétuelles pour appuyer avec votre pouce sur les boutons des deux serrures brillantes dont le pen s'ouvre brusquement, libérant le couvercle de cuir qui se soulève doucement, pour tâter en aveugle à l'intérieur de votre valise, puis enfin trouver la brochure que vous cherchez. Le couvercle retombe avec quelques soubresauts mous et vous négligez d'en refermer les serrures. Vous vous asseyez au milieu de la banquette entre l'ecclésiastique disant son bréviaire, que d'heures il doit y passer, et un commis voyageur penché sur son journal déplié. Vous soulevez votre pied en tremblant vers la droite, la jambe à laquelle il est attaché se croise sur sa jambe sœur, et vous vous mettez à considérer la couverture carrée bleu ciel de l'indicateur Chai pour la région sud-est que vous tenez entre vos mains tremblantes, elle aussi, comme tremble tout ce compartiment doucement vers son mouvement de Paris à Rome. Assailli de pensées vagabondes, Léon Delmont se souvient de la soirée de la veille, en compagnie de sa femme et de ses enfants. Fort de sa décision, mais n'ayant encore rien annoncé ni à Henriette ni à Cécile, Léon tente de reprendre contenance. Il se rassure en se disant qu'il n'a pas vraiment menti à sa femme. Il a prétexté une urgence qui le retiendrait à Rome pour le week-end. Mais il ne sait pas dans quelle mesure sa femme se doute de quelque chose. Dans leur appartement en place du Panthéon, la situation familiale est très tendue. Il ne supporte plus ses enfants adolescents qui ont atteint cet âge ingrat où ils n'ont plus le charme de l'enfance et pas encore la maturité des jeunes adultes. Il ne supporte plus sa femme, avec ses traits tirés, ses cheveux grisonnants, son regard lourd de reproches, sa silhouette qui n'inspire plus que du désamour, ses tristes renoncements d'épouse embourgeoisée. La veille au soir, la conscience peu tranquille, c'est en cachette qu'il s'empare du fameux indicateur « Chai » pour l'Italie. Car vous l'aviez dans votre serviette, cet indicateur à couverture bleue que vous tenez entre vos mains, que vos yeux regardent toujours, mais où ils ne distinguent plus rien pour l'instant. Et après le dîner, juste avant de vous coucher, seul dans le grand lit, sans Henriette, qui ne vous a rejoint que lorsque vous dormiez déjà, vous l'avez rangé dans votre valise au-dessus de ce peu de linge propre que vous avez emporté. Il était comme le talisman, la clé, le gage de votre issue, d'une arrivée dans une Rome lumineuse, de cette cure de jouvence dont le caractère clandestin accentue l'aspect magique, de ce trajet qui va depuis ce cadavre de femme continuant illusoirement des gestes utiles, depuis ce cadavre inquisiteur que vous n'avez si longtemps hésité à quitter que parce qu'il y a les enfants dont chaque jour une vague de plus vous sépare, de telle sorte qu'ils sont là comme des statues de cire d'eux-mêmes, cachant de plus en plus leur vie que vous avez de moins en moins envie de connaître et de partager, depuis cette Henriette avec laquelle il vous est impossible de divorcer parce qu'elle ne s'y résoudrait jamais, parce qu'avec votre position, vous voulez éviter tout scandale. La maison Scabelli, italienne, calotine, Tartuffe, verrait la chose d'un très mauvais œil. Depuis ce boulet auquel vous êtes enchaîné et qui vous enchaînerait au fond, asphyxié de cet océan d'ennuis, de démissions, de routines usantes et ennuageantes, d'inconscience où elle se traîne, si vous n'aviez pas ce salut, Cécile. Si vous n'aviez pas cette gorgée d'air, ce surcroît de force, cette main secourable qui se tend vers vous, messagère des régions heureuses et claires, depuis cette lourde ombre tracassière dont vous allez pouvoir enfin vous séparer de fait, jusqu'à cette magicienne qui, par la grâce d'un seul de ses regards, vous délivre de toute cette horrible caricature d'existence, cette existence larvaire, crépusculaire, à laquelle vous allez échapper enfin. Il était le gage de cette décision enfin prise de rompre, de vous libérer de tout ce harnais de vains scrupules, de toute cette lâcheté paralysante, d'enseigner à vos enfants aussi cette liberté, cette audace, de cette décision qui a illuminé de son reflet, qui vous a permis de traverser sans y succomber, sans renoncer à tout, sans vous perdre à jamais, toute cette semaine de chiffres, de règlements et de signatures, cette semaine de pluie, de cris et de malentendus. Le gage de ce voyage secret pour Henriette, parce que si vous lui aviez bien dit à elle que vous aviez à Rome, vous lui avez caché vos raisons véritables. Secret pour Henriette, qui ne sait que trop bien pourtant qu'il y a derrière ce changement d'horaire un secret. Votre secret, dont elle sait bien qu'il a un nom, Cécile. De telle sorte que l'on ne peut pas dire vraiment que vous la trompiez sur ce point, de telle sorte que vos mensonges à son égard ne sont pas complètement des mensonges, mais une étape nécessaire vers la clarification de vos rapports. Vers la délivrance, à elle aussi, dans sa séparation d'avec vous. Vers sa libération, à elle aussi, dans une certaine faible mesure. Secret parce que l'on ignore avenue de l'Opéra votre destination. Secret parce que chez Scabelli, sur le Corso, personne ne sait que vous serez à Rome de samedi matin à lundi soir. Secret même pour Cécile en ce moment, puisque vous ne l'avez pas prévenue de votre arrivée, voulant jouir de sa surprise.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Spending a day translucent, internet of everything, hanging at strangers. That's the way that we begin, staring at the sun, thinking it's the moon. Tiny indication it's gonna happen soon. Not like you expect, silhouettes are getting closer.
Qui êtes-vous, Michel Buteur, vous qui avez écrit dans votre livre La Modification, mon personnage éprouvait une sorte de vertige intérieur, et c'est ce qu'on éprouve lorsqu'on lit votre livre. Est-ce que ce vertige a un rapport avec la vie moderne?
Oui, bien sûr, ce vertige a un rapport avec la vie moderne. Je crois que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui se transforme avec une rapidité extraordinaire. Et bien sûr, tout le monde a beaucoup de mal à s'y retrouver au milieu de toute cette transformation. Moi-même, je dois dire que j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver et je sens presque douloureusement, disons, cette difficulté. Eh bien, les personnages qui sont dans mes livres éprouvent eux aussi ce vertige.
Après le souvenir de ses frustrations, Léon Delmont laisse libre cours à ses fantasmes. Quelques heures plus tard, après plusieurs pauses cigarettes dans le couloir et plusieurs expressos pris au bar, comme un avant-goût de l'Italie, Léon a retrouvé son enthousiasme. Heureux de l'effet de surprise qu'il réserve à Cécile, il imagine leurs retrouvailles inattendues sous le ciel romain qu'il espère clément. Après l'inquiétude du départ, l'espoir d'un bonheur imminent renaît. Pourvu qu'à Rome il fasse beau, pourvu que vous puissiez, demain matin, sans avoir besoin de vous protéger d'une de ces virulentes averses automnales romaines dans une porte cochère voisine, ce qui risquerait de vous empêcher de rencontrer, d'apercevoir ou même de rattraper Cécile, au moment où elle s'enfuirait en courant dans son imperméable transparent vers l'ambassade où elle travaille, l'attendre tranquillement à l'air libre, reposée, restaurée après cette nuit qui ne sera évidemment pas agréable, fumant un de ces cigares que vous aurez acheté tout à l'heure au wagon-restaurant, votre manteau sous le bras, à l'ombre, mais tout réjoui du soleil dorant le sommet des maisons, à l'angle de la Via dei Barberi, en face du 56 Via Monte della Farina, qui sera votre adresse secrète pour deux nuits. Les persiennes du quatrième étage seront encore fermées lorsque commencera votre guet, parce que vous connaissez bien votre impatience, vous ne réussirez pas, malgré vos détours, à rejoindre votre poste d'observation après 8 heures. Et il vous faudra très longtemps patienter, tuer le temps en étudiant cette façade et ses lézardes, les visages des premières gens qui passeront avant qu'enfin sa fenêtre s'ouvre. Mais alors peut-être la verrez-vous apparaître, se pencher au dehors, suivant des yeux le virage d'une bruyante motocyclette, ses cheveux très noirs, ses cheveux d'italienne, bien qu'elle soit de père français, encore décoiffés, qu'elle rejettera derrière ses épaules d'un mouvement de sa tête, et sans doute, en ce cas, c'est à ce moment qu'elle percevra votre silhouette. Mais ignorant tout de votre venue, elle ne vous reconnaîtra pas, trouvant tout au plus à ce flâneur, la considérant avec tant d'insistance quelques ressemblances avec vous. Ainsi, vous la contemplerez en quelque sorte en votre absence. Puis elle disparaîtra dans l'obscur intérieur de sa grande et haute chambre de vieille maison romaine, qu'elle a si bien su aménager avec ce divan dans le coin, suffisant pour vous deux, et ces fleurs qu'elle renouvelle avec tant de soin près de ses deux autres chambres louées, le printemps ou l'été, à des touristes, qui seront vides pour le moment, et dont l'une sera officiellement votre logement pour ces deux nuits, assez bien séparée du reste de l'appartement où se tient la propriétaire avec sa famille, Madame d'Aponte, comme le librettiste de Mozart de l'autre côté de la petite entrée très noire qui donne directement par une porte vitrée sur l'immense cuisine. C'est donc à la porte au-dessus du Saint-Antoine, presque invisible derrière sa vitre poussiéreuse, que vous guetterez son apparition après cela. Avec, vous l'espérez, sur les épaules, c'est ainsi qu'elle serait la plus belle, ce grand châle blanc que vous lui avez offert, et sa robe à grands plis et ramages violets et sang, ou bien, s'il fait trop frais, son tailleur de velours à côtes vertes un peu plus foncées que l'émeraude, ses cheveux noirs tressés et enroulés au-dessus de son front avec 2 ou 3 épingles de verre irisées pour les tenir, ses lèvres peintes, ses sourcils terminés au crayon bleu, mais rien sur le reste de son visage, rien sur cette admirable peau. Elle tournera immédiatement à sa gauche vers San Andrea della Valle. C'est le chemin dont elle a l'habitude, qu'elle préfère bien qu'il ne soit pas le plus court, mais cette fois elle ne pourra pas manquer de vous voir. D'autant plus que vous vous précipiteriez vers elle si cela ne suffisait pas de s'arrêter, n'en croyant pas ses yeux. Alors l'agitation sur ses traits sera comme le vent bouleversant une touffe de glaïeul. Mais bientôt un souvenir plus sombre vient recouvrir les pensées de Léon. Fasciné par la métaphore du train, Michel Butor s'amuse à multiplier les allers-retours entre le présent, le passé et l'avenir. Au cours de son voyage, Léon Delmont est traversé de souvenirs et de sensations contradictoires. Après l'évocation heureuse de sa première rencontre avec Cécile dans ce même train, Léon se remémore désormais le triste séjour qu'il avait fait à Rome, 3 ans auparavant, en compagnie d'Henriette. Voyage d'autant plus accablant pour le vieux couple qu'il tentait par là de ressusciter l'émotion de leur voyage de noces et de leurs premières amours, bien avant la guerre. La station n'est terminée à cette frontière où s'arrêtait d'ordinaire votre vie commune avec Cécile. Vous étiez arrivé un peu moins de 3 ans auparavant, à cette époque où vous n'étiez encore jamais passé par la Via Monte della Farina, où Rome représentait pour vous la solitude. Un matin d'hiver, avant que le soleil ne fût levé, en compagnie d'une Henriette que le voyage avait fatiguée, que vous aimiez encore, ou du moins dont vous ne saviez pas encore que vous commenciez à vous en détacher, parce qu'il n'y avait personne alors avec qui la comparaison s'imposa, d'une Henriette en qui évidemment déjà le mépris avait commencé son œuvre de durcissement et d'isolation, de vieillissement et de destruction, mais qui vous pardonnait tout à cause de ce voyage tant de fois retardé qu'elle avait tant eu envie de refaire, à cause de cette ville qu'elle avait tant eu envie de revoir, où elle aussi, comme vous maintenant, elle cherchait un rajeunissement qui ne lui avait pas été apporté. Le nœud de ce fil avec l'avant-guerre pendant laquelle elle l'avait vu pour la dernière et seule fois, de ce fil qui s'était tellement embrouillé et détérioré déjà. Hélas, elle s'en était fait une telle joie de ce séjour si longtemps retardé. Elle en espérait tant. Vous y retrouvez, vous, que depuis des années, chaque jour, elle avait un peu plus perdu, qu'ainsi s'abolirait cette distance entre vous deux qui s'accentuait à chacun de vos retours, parce que chacun représentait une nouvelle déception réciproque, parce que chaque fois, plus amère encore, la différence s'affirmait entre cette vie plus libre et plus heureuse dont l'air romain vous avait donné l'espérance et l'oppression, la charge parisienne sous laquelle elle s'enfonçait, parce que chaque fois vous lui apparaissiez vous trahir un peu plus vous-même à Paris, dans cette occupation de plus en plus fructueuse financièrement, vous avilissant, vous aplatissant devant ce système qu'autrefois au moins vous saviez réprouver, vous y livrant maintenant un peu plus aveuglément, en prétendant toujours que c'est à cause d'elle, que c'était pour avoir ce bel appartement, pour que les enfants soient mieux habillés, pour qu'elle n'eût rien à vous reprocher, comme vous lui disiez autrefois avec ironie au début, vous éloignant de plus en plus de vous et d'elle. Et elle le savait bien. Qu'aux images des rues romaines avec leurs jardins et leurs ruines s'accrochait à vous tout un rêve dont la puissance s'accroissait prodigieusement, le rêve de tout ce à quoi justement vous aviez renoncé à Paris, que Rome était pour vous le lieu de l'authenticité, que vous y aviez développé toute une partie de vous-même à laquelle elle n'avait point part, et c'était à cette lumière qu'elle désirait tant être introduite par vous. Il n'y avait qu'un seul malheur, c'est que tout cela n'était alors que songe et charme. Vous ne saviez rien reconnaître, vous n'aviez rien étudié, vous n'y aviez point apporté de passion, vous étiez incapable d'en rien expliquer. Ah, elle s'imaginait que vous la connaissiez incomparablement mieux, cette ville, que votre amour pour elle avait cette instruction que seule Cécile a été capable de vous apporter. C'est pourquoi, lorsque vous vous promeniez dans les rues avec elle cet hiver-là, vous ne saviez rien répondre à tant de questions qu'elle vous posait, vous révélant à chaque fois votre insuffisance, l'extrême fragilité de ce refuge que vous aviez cru vous constituer. Devant votre silence, votre impuissance, elle s'est lassée. Soudain, tout ce qu'elle avait tant aimé autrefois, elle aussi, elle s'est mise à le détester. Et dès la fin du premier jour, vous le sentiez bien dans ses yeux tirés, elle aurait voulu s'en aller. Vous auriez voulu qu'elle fût absente pour que tout à nouveau vous parût aisé dans Rome. Avançons dans notre voyage. Lorsque la nuit tombe, Léon Delmont, harassé, courbaturé, est en proie au pire cauchemar. Au souvenir de ce séjour pitoyable à Rome en compagnie d'Henriette, répond bientôt chez Léon un autre souvenir désagréable, celui d'un trajet inverse, de Rome à Paris, un an auparavant, en compagnie de Cécile. Léon avait fait l'erreur de faire venir sa maîtresse à Paris, espérant qu'elle y insufflerait un peu de la magie romaine. Très occupé par ses affaires, il avait finalement partagé très peu de temps avec la jeune femme. Après ce fiasco parisien, ils tentent de faire illusion et de reprendre leurs habitudes à Rome. Revenons au présent. Mal installé sur son siège, Léon ne parvient pas à trouver le sommeil. Pendant un court instant de répit, il croit revivre l'une de ses arrivées heureuses à Rome lorsqu'il est pris d'une inquiétante hallucination, inspirée par son voisin d'en face, un vieillard mutique. Les pins se balançaient doucement dans la lumière. Déjà vous apparaissait la ville avec le dôme de Saint-Pierre et cette approche vous emplissait de joie. Alors vous vous êtes levé. Vous avez rangé votre livre dans votre valise. Vous avez baissé complètement la vitre. Et vous avez regardé ces maisons qui passaient. Les rues, les femmes à leurs portes, la circulation, les tramways, le Tibre, la station de Trastevere, le Tibre encore que vous avez traversé, le début des murailles, la station Ostensiens. Comme vous respiriez alors. Comme vous étiez prêt à retrouver Cécile. Quelle hâte alors vous aviez d'en avoir fini avec les affaires de la maison Scabelli. Quel désir à ce moment vous emplissait de venir une fois uniquement pour elle. Vous ne saviez pas encore quand que ce serait cette fois-ci que vous prendriez cette décision si tôt. Passait la stazione Tuscolana, puis s'est approché la porte majeure avec le tombeau du boulanger Orissakès contre lequel s'appuyait un vieil ivrogne qui s'est levé, qui a fait des signes au train comme s'il vous accueillait à Rome, et les travaux de réfection de la chaussée. L'ivrogne s'est remis en mouvement. Les pierres sur lesquelles il voulait poser le pied s'effritaient, se déchaussaient et roulaient d'étage en étage jusqu'à ce qu'il ne fût plus possible de distinguer le bruit de leur chute au milieu de ce bourdonnement de plus en plus fort qui venait d'en bas. Il y avait un nuage épais se répandant et dans le lointain, au travers de ces brumes âcres, apparaissait une certaine argenture. Il est arrivé au bord de l'eau, il voit quelques minces reflets sur les vagues, il en écoute longuement le tumulte. Alors vient sur le fleuve boueux tourbillonnant une barque sans voile avec un vieillard debout, armé d'une rame qu'il tient levée sur son épaule comme prêt à frapper. Au-dessus de sa barbe raide, toute violette de reflets, il n'y a point d'yeux, mais seulement deux cavités semblables à des brûleurs avec des flammes sifflantes qui empêchent de distinguer rien d'autre du visage à cause de l'éblouissement qu'elle provoque. C'est une barque de métal, une épaisse masse de rouille, mais dont les bords sont clairs comme des rails, aiguisés comme le tranchant d'une faux. Elle accoste, elle aussi à peine. La rame s'appuie sur le sombre sable, une voix étrangement douce alors. Qu'attendez-vous ? M'entendez-vous ? Qui êtes-vous ? Je suis venu pour vous mener sur l'autre rive. Je vois bien que vous êtes mort. N'ayez crainte de chavirer. Le bateau ne s'enfoncera pas sous votre poids. Mais non, il ne peut pas prendre cette main. Et sur sa propre paume, éclairée par les flammes crues des brûleurs, il voit dégoutter de tous les ongles une huile noire, corrosive, qui adhère à sa peau, qui rampe, visqueuse, et s'insinue à l'intérieur de sa manche. Il s'écroule. Les vagues boueuses lui lèchent tout le corps, et le passeur le ramasse, le jette au fond de sa barque, qu'il remet à flot. Sa voix alors, comme amplifiée par un de ces haut-parleurs de métal dont on se sert dans les gares, lui hurle à l'oreille tandis que l'haleine des yeux le brûle. « Tu désirais aller à Rome, je le sais bien, je te connais, il n'est plus temps de reculer, je t'y mène. » Puis il est passé sous la porte majeure et vous êtes entré à Rome. Tout était encore en attente. Tout l'avenir était encore ouvert avec Cécile, cette possibilité de vivre avec elle une jeunesse nouvelle, votre première jeunesse véritable, encore intacte.
Come in. Who are you?
State Police. Your name, please?
Eve Kendall. Is anything wrong?
There was a man at your table tonight in the dining car. Friend of yours?
Tous les écrivains du nouveau roman ont subi une influence américaine considérable.
Michel Butor.
Ils ont tous subi aussi, et ça va ensemble, une influence considérable du cinéma. La description dans le nouveau roman est très proche d'un scénario détaillé. Le cinéma a apporté vraiment une nouvelle façon de voir les choses.
Is this the man?
Yes, I think so. It's not a very clear picture.
It's a wire photo. We just got it from the New York police.
Police?
He's wanted for murder.
Good heavens, no.
Parce que je pars, il y a de l'eau dans ton regard. Mais les pleurs que tu pleures sont inutiles. Car tous les départs resserrent les cœurs qui se séparent. Je serai bien que loin de toi, tout contre toi.
Terrassé par ses cauchemars et ses doutes, Léon envisage soudain une toute autre issue à son voyage. Métaphore de la condition humaine, le train est aussi pour Michel Butor une métaphore des choix existentiels. À telle station, quelle voie, quelle décision prendre? Peu avant son arrivée à destination, Léon remet en question de façon radicale l'orientation future qu'il souhaitait donner à sa vie. Il se projette à la fin de son séjour, lorsqu'il devra annoncer à Cécile qu'il renonce à leur projet d'une installation commune à Paris. Dans ce passage, l'auteur donne la clé du titre de son livre, « La modification ». Lundi soir, quand Cécile sortira du palais Farnèse après son travail, elle vous cherchera des yeux dans la nuit, vous découvrira près d'une des fontaines en forme de baignoire à l'attendre avec appréhension, car c'est à ce moment-là, à ce dernier dîner au restaurant Trescalini, qu'il vous faudra en venir aux aveux et à la douloureuse mise au point. Puisque vous le savez bien, il sera impossible d'en rester au silence, de la laisser espérer encore que votre décision va venir, imaginer que vous cherchez encore pour elle cette situation à Paris, que vous êtes sur le point de lui trouver quelque chose alors que vous ne cherchez plus, alors que vous aviez déjà trouvé. Il sera impossible de ne pas lui dire à ce moment-là, au moment où vous apprêterez à la quitter, après ce séjour consacré à elle seule, après ces quelques jours pendant lesquels elle aura été si heureuse de la surprise que vous lui aurez faite, que vous allez lui faire dans quelques heures, pendant lesquelles elle se sera imaginée qu'elle avait enfin gagné la partie, de ne pas lui dire que vous aviez primitivement l'intention de lui annoncer cette autre surprise, que vous avez enfin trouvé une situation pour elle, qu'elle allait partir pour Paris, qu'elle pouvait donner sa démission à l'ambassade, commencer à se préparer, à faire ses adieux à Rome, que vous aviez fait des démarches pour vous trouver un logement, que vous aviez plusieurs possibilités en vue, que tout était prêt, à portée de main, et que vous y avez renoncé. Impossible de ne pas tenter de lui expliquer pour quelle raison s'est produite cette modification, afin qu'elle quitte tout espoir dans cette direction-là. Impossible de vous en tenir au silence, parce que ce silence constituerait, vu les circonstances, étant donné cette espèce de promesse et de déclaration solennelle qu'elle ne manquera pas de lire dans ce voyage extraordinaire que vous avez entrepris pour elle seule, un mensonge d'une gravité extrême qui empoisonnerait tous ces rapports que vous désirez conserver avec elle, vos rapports avec Rome même obscurciraient, empuanteraient l'air même de cette relation à vous-même que vous cherchez à purifier. Il faudrait donc ce dernier soir, puisque vous désirez attendre jusqu'au dernier soir, afin que vous puissiez ces quelques jours jouir tous les deux au moins de l'apparence de ce bonheur qui, lui, vous échappe, goûter quand même à un fragment de cette vie que vous imaginiez si prochaine et qui s'éloigne de plus en plus dans l'illusoire et l'impossible. Avoir le courage au restaurant Trescalini, tout en considérant la fontaine des fleuves, alors qu'elle sera tout émue à l'idée de votre proche départ, mais tellement heureuse de vous avoir encore tout à elle pour cette soirée, de lui asséner ce coup, cette déception, de lui déclarer, tenter de lui démontrer que tout était prêt et que tout est perdu. Elle vous laisserait parler, mais ne comprendrait pas. Il lui faudrait le temps de peser de telles paroles. Il faudrait que vous les lui ayez dites déjà la veille ou l'avant-veille, c'est-à-dire demain, pour qu'elle ait pu y repenser pendant ces moments où elle vous regardera dormir, où elle travaillera lundi au Palais Farnèse, séparée de vous, pour qu'elle ait pu vous les faire répéter plusieurs fois afin de bien s'assurer qu'il n'y a pas d'autre interprétation possible. Il vous faudrait donc gâcher ces deux ou trois jours pendant lesquels vous espériez néanmoins profiter d'elle, de cette liberté à la conquête de laquelle vous étiez parti. Hélas, tout ce séjour va-t-il être donc de méfiance, d'effort de sa part pour arracher ce qu'elle croira n'être qu'un dernier lien, de tendre sarcasme auquel il vous sera si dur de résister, presque impossible? Non, cela n'est pas en votre pouvoir. Et le seul moyen qu'elle n'attache pas à votre séjour et à tout cet ensemble de démarches et de projets qui l'ont provoqué, une trompeuse importance décisive dans un sens tout autre que celui qui se révèle maintenant peu à peu, ce serait qu'elle ne l'apprenne que plus tard. Assez longtemps plus tard. Par des tiers peut-être. Ou des allusions. Une fois que cet espoir en vous, qui ne pourrait qu'être déçu dans sa forme actuelle, se serait peu à peu fané ou transformé. Il vous faudrait donc renoncer tout à fait à la voir cette fois-ci. Non prévenue. Elle ne vous attend pas. Il faudrait qu'elle ne sache pas que vous êtes venu, que vous aviez trouvé cette situation. Puisqu'en fait, pour elle, c'est comme si vous ne l'aviez pas cherché. Ce serait là le seul moyen. Vous voyez cette lumière enfin apparaître dans votre esprit comme la sortie d'un tunnel. Ne pas la voir. Ne rien lui dire. Ne la rencontrer qu'à votre prochain voyage, aux frais, aux ordres de la maison Scabelli, comme cela avait été prévu, gardant ce secret en vous comme un caillot sur votre langue, continuant à la fréquenter, certes, continuant à l'aimer, certes, mais avec une terrible déchirure entre vous, qui s'élargira douloureusement chaque fois sans pouvoir se cicatriser, à cause de ce voyage même qui est en train de continuer, jusqu'au jour où elle se sera suffisamment détachée de vous, où les illusions qu'elle se fait sur vous se seront suffisamment atténuées pour que vous puissiez tout lui raconter sans que plus rien ne soit mensonge. Et voici pour conclure l'étonnante fin du voyage. Arrivé à destination, Léon Delmont a changé d'avis, de vie. Grand lecteur, passionné d'histoire romaine, il comprend que l'indicateur Chai a été pour lui comme le livre des égarés et qu'il lui faut à présent écrire son propre livre. Enfoncé dans la rainure où se rejoignent la banquette et le dossier, il y a ce livre que vous aviez acheté au départ, non lu mais conservé tout au long du voyage comme une marque de vous-même, que vous aviez oublié en quittant le compartiment tout à l'heure, que vous aviez lâché en dormant et qui s'était glissé peu à peu sous votre corps. Vous le prenez entre vos doigts, vous disant « Il me faudrait écrire un livre. » Ce serait pour moi le moyen de combler le vide qui s'est creusé, n'ayant plus d'autre liberté, emporté dans ce train jusqu'à la gare, de toute façon lié, obligé de suivre ses rails. Je continuerai par conséquent ce faux travail détériorant chez Scabelli à cause des enfants, à cause d'Henriette, à cause de moi, à vivre 15 places du Panthéon. C'était une erreur de croire que je pourrais m'en échapper. Et surtout, les prochaines fois, je le sais, je ne pourrai pas m'empêcher de retourner voir Cécile. D'abord, je ne lui dirai rien, je ne lui parlerai pas de ce voyage. Elle ne comprendra pas pourquoi il y aura une telle tristesse dans mes embrassements. Elle sentira peu à peu ce qu'elle avait d'ailleurs toujours senti, que notre amour n'est pas un chemin menant quelque part, mais qu'il est destiné à se perdre dans les sables de notre vieillissement à tous deux. Passe la gare de Malianne. De l'autre côté du corridor, c'est déjà la banlieue romaine. Vous allez arriver dans quelques instants à cette gare transparente à laquelle il est si beau d'arriver à l'aube, comme le permet ce train dans d'autres saisons. Il fera encore nuit noire, et au travers des immenses vitres, vous apercevrez les lumières des réverbères et les étincelles bleues des trams. Vous n'irez point guetter les volets de Cécile, vous ne la verrez point sortir, elle ne vous apercevra point. Vous n'irez point l'attendre à la sortie du palais Farnèse, vous déjeunerez seul. Tout au long de ces quelques jours, vous prendrez tous vos repas seul. Évitant de passer dans son quartier, vous vous promènerez tout seul, et le soir vous rentrerez seul dans votre hôtel où vous vous endormirez seul. Alors dans cette chambre, seul, vous commencerez à écrire un livre pour combler le vide de ces jours à Rome sans Cécile. Puis lundi soir, à l'heure même que vous aviez prévu, pour le train même que vous aviez prévu, vous retournerez vers la gare sans l'avoir vue. Vous dites, je te le promets, Henriette, dès que nous le pourrons, nous reviendrons ensemble à Rome. Dès que les ondes de cette perturbation se seront calmées, dès que tu m'auras pardonné, nous ne serons pas si vieux. Michel Butor.
Il y a la modification qui se fait à l'intérieur du personnage n'est qu'une métaphore, si vous voulez, ou qu'un élément d'une modification que je cherche à l'intérieur du lecteur lui-même. Je veux rendre, comme l'auteur du livre de cuisine, je veux rendre le lecteur actif. Et comme le procureur, ou le détective dans un roman policier, eh bien, je veux faire ressentir au lecteur une certaine culpabilité.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Philippe Bredin. Elle a été préparée par Estelle Gap, Léla Kourousselikoua, Claire Tesser et Périne Malinge. Bon après-midi et à la semaine prochaine.